9h37, on va parler des négociations dans le secteur public, particulièrement dans le secteur de l'éducation. Hier, la Fédération autonome de l'enseignement a rendu public le résultat d'un, on va appeler ça une recherche, un avis, si on veut, qui a été établi par des chercheurs en santé mentale de l'Université Laval, et je résume le titre, « Des offres patronales qui rendent les profs malades ». Sylvain Madette, le président, est avec nous. Monsieur Madette, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
On va parler du fond, mais juste sur la forme. Là. Mm. Des offres, ça ne peut pas rendre malade. Là. C'est une offre, ce n'est pas un fait établi.
Ben, c'est-à-dire qu'il faut évaluer, puis c'est le réflexe qu'on a eu, parce que depuis quelques années, on travaille sur la question de la santé mentale des profs, et on a eu le réflexe de se poser la question de savoir, ces offres-là, hein, qui viennent modifier les conditions de travail des profs qu'on présente, est-ce qu'elles viennent accentuer ou atténuer les risques sur la santé mentale? Et donc, dans les faits, quand, par exemple, la partie patronale veut faire disparaître la pondération a priori, le fait que la direction d'école doit tenir compte des difficultés qu'un élève a quand il vient pour former le groupe.
Mais Robert a dit hier, non, c'est pas vrai, ça.
Ça, de deux choses. L'une, ou le ministre ne sait pas ce que ses représentants disent à la table de négociation, ou il le sait et il fait semblant de ne pas le savoir. C'est écrit noir sur blanc dans le dépôt qui a été présenté le 17 décembre dernier. C'est écrit noir sur blanc, disparition de la pondération a priori et augmentation du nombre d'élèves par groupe par la disparition des maxima qui sont actuellement là, négociés dans les contrats de travail. Donc, moi, j'invite le ministre à relire le dépôt qu'il a lui-même.
Mais vous l'avez entendu comme moi, là. Je n'ai pas rêvé ça.
Ah oui, je ne l'ai pas juste entendu, je l'ai lu aussi. Il s'est fendu d'un gazouillis au sortir de votre émission. Là.
OK, mais ce que je veux dire par là, je comprends tout ça, mais on est à l'étape là, de... J'en ai négocié des deux bords, comme on dit. Puis on sait comment ça marche. Là. Tu demandes bien des affaires, puis après ça, l'autre t'offre peu de choses, ou l'inverse, t'es souvent en demande. Puis c'est le jeu de la négociation. On n'est pas dans la... Tu sais, je comprends que les conditions sont pas simples, là, puis je comprends qu'il y a des départs à la retraite prématurés. Je comprends qu'il y a des gens qui quittent après 5 ou 6 ans et même moins. On est d'accord avec ça. Mais vous pensez pas que c'est un peu charrier de dire que des offres rendent le personnel malade?
C'est parce qu'il faut regarder l'état de la profession, vous le dites vous-même, hein, la profession enseignante, depuis, entre autres, puis on l'a vu, la dégradation au cours des 5 dernières années. Hein. Il faut regarder le nombre de profs qui vont quitter en maladie pour des raisons de nature psychologique. Là. C'est en explosion. La pénurie de personnel, elle se traduit notamment, ou elle s'explique notamment, par le fait qu'il y a de plus en plus de profs qui vont quitter en maladie, qui vont obtenir des congés de maladie parce que la situation est devenue insoutenable. Donc, il faut regarder les offres. Il ne faut pas seulement lire les offres, il faut être capable de les comprendre puis de les imaginer si elles étaient mises en application. Quand, par exemple, la partie patronale nous dit pour avoir de l'aide, là, c'est écrit noir sur blanc, pour obtenir de l'aide, le prof va devoir faire la démonstration qu'il a posé tous les gestes de nature pédagogique et sociaux. On veut même maintenant là, nous faire jouer le rôle de travailleurs sociaux. Ils ne s'en privent même plus. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on va bourrer les classes. Les classes auront de plus en plus d'élèves en difficulté. Le prof va être seul sans l'accès à des ressources et du soutien. Puis quand il va demander de l'aide, il va falloir qu'il fasse... On va passer quoi? On va devoir passer un test pour savoir si on a fait tout ce qu'on devait faire. C'est les offres qui nous ont été présentées conduisent à la détresse psychologique et c'est pour ça qu'on en a demandé le retrait.
Oublions les conditions salariales pour l'instant. Parlons là de ce qu'on appelle le normatif, si on veut, la façon d'organiser le travail dans une école. Ce que j'entends, là, puis vous me direz ça se peut ou pas, là, c'est que t'as beau actuellement chercher des ressources de soutien spécialisé, t'en trouves pas. T'es pas capable de trouver des spécialistes qui vont venir en appui à un professeur dans une classe auprès d'élèves, puis bon. Alors quand même que tu veux, quand même que tu mets de l'argent, c'est extrêmement difficile à trouver, au même titre que c'est difficile de combler tous les postes d'enseignants au début de l'année scolaire. La réalité, c'est quoi? Vous faites quoi avec ces conditions-là? On n'est pas capable d'attirer les gens. Puis c'est pas vrai, moi, je pense pas que c'est juste par 5 000 $ de plus par année ou 6 000 $ de plus par année que, soudainement, on va quitter un emploi pour aller vers l'enseignement.
L'analyse qui a été faite, hein, elle ne visait pas les offres patronales parce que ça se discute, là, ce qu'on appelle la table, une table intersectorielle où on discute des questions monétaires. Donc, ce que les chercheurs ont analysé, c'est uniquement les offres, puis vous l'avez dit, là, ce qu'on appelle le normatif, les conditions de travail. Ben, il faut d'abord, puis c'est vrai que le salaire, c'est une chose, là, puis nous, on revendique aussi là, que de rattraper la moyenne canadienne parce que les profs québécois sont les moins bien payés.
Mettons que vous donnez 5 000 $ de plus par année au monde. Là. 5 000, c'est de l'argent. Mais si c'est si épouvantable que ça comme condition, là, j'irai pas. J'ai pas envie d'être travailleur pour 5 000 $ de plus.
Ben, c'est-à-dire que la question salariale, faut pas la nier. Cependant, il n'y a pas que la question salariale. Vous avez tout à fait raison.
Ça vient pas tout régler.
Il y a d'abord dans le discours. Quand, par exemple, le premier ministre, là, pour justifier l'adoption sous le baillon de la réforme Roberge, est allé dire, ben, écoutez, les profs sont 20 jours en congé. C'est méprisant. Cette violence-là, elle n'est plus supportée par les profs. Elle n'est plus supportable parce que d'un,
c'est pas violent, c'est un dérapage. Mais en quoi c'est violent?
C'est violent parce que
c'est pas ça qu'il voulait dire.
Mais écoutez, il est quand même premier ministre, puis il était ministre de l'Éducation, là. Il peut toujours bien pas prétendre à l'ignorance, là. Je comprends qu'il soit arrogant, mais ça justifie pas qu'il soit ignorant. Il a été ministre de l'Éducation. Quand un ancien ministre de l'Éducation va dire publiquement que les profs sont en congé 20 jours par année, alors que c'est faux, on est en journée pédagogique, on travaille, on est en formation, on fait de la planification, de la correction, on est en rencontre d'équipe avec les collègues. Ça envoie le message auprès de certaines personnes qui profitent de la situation pour dénigrer le travail qu'on fait au quotidien, comme si les profs ne faisaient rien.
Comment ça se passe à la table?
Ben, écoutez, les rencontres sont cordiales. Les rencontres sont cordiales.
Et ça avance-tu?
Ben, c'est-à-dire qu'on... Moi, vous savez, moi, je peux m'avancer en vous disant que ceux qui pensent qu'il y aura règlement avant la fin de l'année scolaire, là, vivent pas sur la même planète que nous autres.
Ça arrivera pas,
ça. On est loin. Ça arrivera pas. On est très, très loin d'un règlement. D'autant plus que, clairement, en tenant compte de l'analyse qui a été faite par les chercheurs, pour nous, on peut pas négocier sur les offres qui nous ont été faites par la partie patronale. C'est pour ça qu'on en demande le retrait. Nous, on porte des revendications qui s'appuient sur l'expertise des profs. Puis on est conscient qu'une négociation, c'est une rencontre entre deux parties. Mais moi, je le répète, la partie patronale va devoir marcher pas mal plus longtemps puis pas mal plus loin pour venir nous rejoindre parce qu'on négociera pas sur ces bases-là. Cependant, les rencontres de négociation se tiennent. C'est cordial, vous savez, dans le cadre de ce type.
Mais là, on est-tu juste dans, c'est-à-dire le small talk, là? C'est-à-dire qu'on est dans le placotage initial avant de tomber dans le plus substantiel?
Ce que moi, j'appelle le déblayage. On est après, les équipes s'écoutent, se parlent, se questionnent. Les chercheurs ont été en mesure d'aller présenter une partie de l'analyse qui a été effectuée. Et donc, on est dans ce contexte-là actuellement. Mais il est clair pour nous que le gouvernement va devoir poser des gestes. Parce que, écoutez, le premier ministre dit qu'il faut revaloriser la profession enseignante, qu'il faut faire attention aux profs. Puis on regarde les offres. Écoutez, actuellement, les profs québécois, on est payés pour 32 heures par semaine. C'est ça le salaire qu'on reçoit. Les offres patronales nous disent, vous allez passer à 35 heures par semaine à l'établissement. Pas en plus, on le sait que vous en faites davantage à maison, mais vous allez devoir rendre des comptes sur ce que vous faites entre le 35 et le 40 heures pour lesquelles on ne serait pas payé. Écoutez, il y a une vision qui est portée par la partie patronale dans le cadre de ces négociations, là où on nous voit comme des objets. C'est une approche clientéliste. Hein, on produit de la réussite éducative. Puis l'objectif, puis c'est pas rien les mots quand dans le dépôt patronal, on écrit une utilisation optimale du personnel enseignant. On dit ça d'une machine. On va l'user à corde, mais on dit pas ça des êtres humains. C'est très, très... C'est pour ça que je vous dis que c'est violent. Puis les profs réagissent hein, partout au Québec. Les profs ont dénoncé ces offres-là.
Non, ça, je peux comprendre, mais je vais vous donner un exemple. Là. Quand vous dites optimiser quelque chose, là, c'est pas juste une machine. Tu dis, tu as une équipe, tu essaies de l'amener au maximum de ce qu'elle peut te donner comme rendement, puis c'est correct, ça, non?
Mais il faut tenir compte des conditions dans lesquelles l'être humain va travailler. Si l'être humain n'a pas accès, si le prof n'a pas accès aux ressources de soutien pour services professionnels, mais qu'on lui demande d'atteindre des cibles de réussite, hein, parce qu'on est dans la logique de l'atteinte des cibles de réussite, là, on ne parle pas des élèves, on parle de faut augmenter de 2% le taux de réussite dans telle matière à tel niveau. On est là-dedans encore, là, puis ça transpire dans les offres patronales. C'est de placer l'individu, l'être humain, lui, qui est au cœur de l'action auprès des élèves qui lui sont confiés, c'est nécessairement de le placer en état d'échec. Parce qu'on lui dit, je me préoccupe pas du service puis du soutien que je te donnerai pas. Ce que je veux, c'est que tu fasses du rendement.
Comment vous expliquer qu'un prof, là, Robert, c'est un ancien professeur, là, qui a eu une expérience terrain, puis ça fait pas 50 ans là, qu'il a quitté l'enseignement, là, soit dans cet état d'esprit-là?
Moi, je vais me permettre de... Vous me posez la question, puis je vais vous répondre ce que je pense. Moi, je pense qu'il a cessé d'être un prof dans son cœur. Parce que choisir la profession enseignante, c'est d'abord une question de cœur. C'est pas une question de raison, là, dans le sens où
tu sais
les conditions dans lesquelles tu vas travailler.
Non, mais peut-être t'es prof, tu sais ce que c'est. Je sais comment les classes ont changé au fil des ans. Pourquoi je voudrais écœurer les profs du Québec, moi?
Mais je pense qu'il a cessé d'être un prof dans son cœur, puis il s'est fait le porte-parole des lobbies, des directions d'établissement puis des gestionnaires de commissions scolaires. On l'a vu dans la réforme, avec la réforme qu'il a imposée sous le baillon, là. Il a écouté qui? Il a écouté les directions d'école puis gestionnaires de commissions scolaires qui sont dans un power trip. T'sais, on a Manon Massé accusé le premier ministre d'être le boss des Bécosses. Ben, eux autres, ils jouent au roi de la montagne. On est dans cette. Ce sont des gens qui veulent le pouvoir, qui ont eux-mêmes très peu d'années d'expérience sur le terrain parce que après 5 ans, ils deviennent gestionnaires. Il y a aussi une pénurie de personnel dans ces corps d'emploi-là. Ils ont très peu d'expérience terrain et ils veulent jouer aux gestionnaires d'établissement. Et donc, ils ont eux-mêmes, ils portent un regard qui est méprisant sur leurs collègues.
Certains diront que les profs veulent aussi gérer l'école.
Pas du tout. Nous, c'est pour ça qu'on s'est opposé au projet de loi 40 parce qu'on veut pas gérer les écoles, on veut pas gérer les centres de services, on veut enseigner. On est des enseignants et on veut disposer des ressources pour être auprès des élèves qui nous sont confiés, qu'ils soient jeunes ou adultes. Et donc, on n'est pas du tout dans cette logique-là de se mettre le nez là où ça ne nous regarde pas. Chacun son métier. Mais moi, je pense qu'il a cessé d'être un prof dans son cœur. Il ne fait qu'écouter les directions d'établissement et gestionnaires de commissions scolaires qui prennent de mauvaises décisions depuis 20 ans.
M. Mallette, on va se revoir bientôt, j'imagine, surtout que vous me dites qu'il n'y aura pas d'entente d'ici la fin d'année scolaire.
C'est clair. Ça ne sera pas à ces conditions-là.
Ça arrive, c'est une surprise.
Ah ben, ça arrivera pas chez nous.
Ou c'est une loi spéciale.
Puis même là, le gouvernement ne peut plus imposer des lois spéciales comme il le faisait auparavant, là, avec les décisions de la Cour suprême. Ça aussi, ça change le contexte dans lequel on négocie.
Merci d'être venu ce matin. Merci Sylvain Mallette est le président de la Fédération autonome de l'enseignement. On revient après la pause.